Alors bonjour à chacun et à chacune. Ça fait un plaisir de vous voir. Ça fait longtemps aussi que je suis pas venu ici. La raison, c'est plusieurs voyages, hein, un peu dans le monde, enfin surtout en Afrique francophone. J'étais au Tchad au mois de mai dernier, et puis au Congo, à RDC, mois d'août, avec mon épouse. Et puis à Madagascar, il n'y a pas longtemps, donc parce qu'il y a une semaine, j'étais encore à Madagascar. Donc je suis un peu encore en décalage, mais je suis bien là. J'étais vraiment encouragé au travers de tous ces voyages, parce que dans les deux premiers pays, avec toute une équipe, nous avons lancé une formation missionnaire en Afrique francophone, donc une formation missionnaire en Afrique par des Africains pour des Africains. Et nous visons aussi l'autonomie au bout de 3 ans. Et j'ai commencé justement au Tchad, et puis après j'ai continué au Congo. Et on était vraiment encouragés par l'intérêt des églises africaines justement pour la mission. Et effectivement, ce qui nous a motivés d'aller là-bas dans ces pays, c'est que à chaque fois nous devions refuser des gens pour suivre une formation missionnaire ici à cause de toutes sortes de problèmes de papier ou d'autres choses. Donc on s'est dit, mais au lieu de à chaque fois refuser, on va chez eux. Et nous avons lancé ça, et j'étais vraiment encouragé de voir combien les églises en Afrique, francophones en tout cas, au Tchad, au Congo RDC, sont impliquées, engagées dans la mission. Et puis, j'étais à Madagascar aussi il n'y a pas longtemps, et là, dans ce cadre, nous développons aussi un partenariat entre la mission évangélique indépendante de Madagascar en Suisse et les communautés évangéliques indépendante de Madagascar. Et j'ai été aussi émerveillé de voir combien ces églises grandissent aussi dans ce pays, parce qu'en 30 ans, il y a 128 églises maintenant. Et la semaine dernière, j'ai participé à l'Assemblée générale où on a présenté 9 nouvelles églises. Alors, il y a des défis à cause de cela, parce qu'il y a aussi la croissance qualitative, hein, la qualité de l'enseignement, l'affermissement de l'Église. Il y a tout un travail, mais on peut vraiment se réjouir de ce développement. Et l'Église évangélique de Cossonay dans tout cela. Je me suis posé la question, et ça fait partie aussi du décalage que j'ai, hein, en disant, il y a quand même un contraste entre les réalités missionnaires en Afrique et les réalités missionnaires en Suisse. Mais Dieu n'abandonne pas pour autant la Suisse, ni la Suisse romande. Dieu veut travailler avec cette Église, parce que cette Église a une place dans le projet de Dieu pour cette région. Je ne sais pas si vous êtes posé la question, mais pourquoi cette Église est ici et maintenant? Donc nous allons bientôt déménager, mais nous ne l'avons pas quitté, que ce n'est. Mais pourquoi Dieu a placé cette église ici? L'église, c'est aussi comme les disciples, le sel de la terre, la lumière du monde. Donc s'il n'y a pas d'église, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de goût de vivre. Et l'église est là pour ça. Et je me demande si on enlève totalement cette église de cette cossonnée, si elle va manquer à cette région. Mais en tout cas, une des raisons de la place de l'église ici dans cette région, c'est vraiment d'illuminer, d'apporter cette lumière de Jésus-Christ partout où elle est placée. J'ai aussi fait une étude, je fais un petit peu de pub, il y a un livre que je viens de sortir sur l'implantation d'églises, une étude en Europe francophone, et dans cette étude, j'ai aussi étudié le paysage évangélique roman. Et j'ai recensé 392 églises. Mais en réalité, il y a plus de 400 églises en Suisse romande. Donc, en comptant les églises issues de la migration. Alors, on peut se dire, mais en fait, il y a énormément d'églises ici. Mais finalement, quand on compte par rapport au nombre de la population, il n'y a pas autant. Il y a en tout cas en dessous de 2 églises pour 10 000 habitants. Et c'est le cas dans le district de Morges. Et c'est en dessous d'une église pour 10 000 habitants dans le district de Grootvaux. Et même le nombre des évangéliques en Suisse romande, c'est en dessous de 3%. Donc, vous voyez encore le nombre de gens qui ont besoin d'entendre l'évangile. D'autant plus qu'en Suisse, environ une personne sur 4 se déclare sans appartenance religieuse. Donc, c'était dans les années 70, il n'y avait pratiquement pas, mais maintenant c'est une personne sur 4. Cela montre l'intérêt justement de d'annoncer l'évangile à ceux qui ne connaissent pas l'évangile. Et d'ailleurs, la Bible devient de plus en plus une nouveauté. Et il faut d'abord parler de la Bible, faire connaître la Bible, avant d'utiliser ces versets bibliques pour annoncer l'évangile. Donc, il y a aussi un défi. Il y a un défi pour la Suisse romande, il y a un défi pour cette région, et notre Église a une place à ce niveau-là. On ne va pas ignorer les gens qui ne connaissent pas l'évangile, les gens qui ne connaissent pas l'amour de Dieu pour eux, les gens qui ne sont pas réconciliés avec Dieu. Et nous ne devrons pas être dans cette Église comme un club de chrétiens rescapés dans un monde en perdition et qui attendent que Jésus revienne. Bien sûr, il y a cette espérance. Mais en attendant ce retour de Jésus, nous sommes impliqués dans une mission pour que le maximum des personnes en dehors de cette Église soient impliquées dans l'Église, puissent être sauvées et connaître l'amour de Dieu dans leur vie. Parce que Dieu les a créés, Dieu les aime, Dieu a un projet pour eux. Nous avons une responsabilité en tant qu'Église dans ce monde en perdition. En réfléchissant un peu au texte biblique que j'aimerais partager ce matin, j'étais conduit sur ce texte qui se trouve dans Luc chapitre 10, qui nous parle des disciples en mission. Et je vais lire ce texte, les 11 premiers versets. Après cela, le Seigneur choisit encore 72 autres disciples et les envoya deux par deux pour le précéder dans toutes les villes et les localités où il devait se rendre. Il leur disait, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales, et ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. Lorsque vous entrerez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Si un homme de paix y habite, votre paix reposera sur lui. Si ce n'est pas le cas, elle reviendra à vous. Restez dans cette maison-là, prenez la nourriture et la boisson que l'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas d'une maison à l'autre pour demander l'hospitalité. Dans toute ville où vous irez, où l'on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites aux gens, le royaume de Dieu est proche de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et l'on ne voudra pas de vous, on ne voudra pas vous recevoir, allez sur la place publique et dites, la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons contre vous. Sachez pourtant ceci, le royaume de Dieu est proche. Jésus a pris le temps d'accompagner, de former, de prendre ses disciples avec lui. Si je reprends le sujet qui a été dit tout à l'heure par Roland, faire route avec ses disciples. Mais dans ce texte, on voit que Jésus envoie ses disciples pour le précéder. Il y a cette notion d'envoi, partager, annoncer, c'est-à-dire ne pas garder pour soi ce qu'on a reçu, mais partager ce qu'on a reçu. La bénédiction que nous recevons, nous la partageons aussi aux autres. Et dans cet envoi, justement, il y a ce geste, cette action de l'Église pour que l'Église soit tournée vers l'extérieur, tournée vers ceux qui ne connaissent pas encore l'Évangile. Mais dans cet envoi, il y a deux points que j'aimerais relever qui peuvent nous empêcher d'accomplir cette mission. Tout d'abord, Jésus nous montre que c'est une priorité la mission ici. Mais en fait, cette priorité est là malgré l'hostilité des gens. Quand Jésus a dit « Je vous envoie comme des... » Voilà, je suis un peu perdu, désolé. Le verset 3. « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, comme des agneaux au milieu des loups. Imaginez un agneau au milieu d'un, à côté d'un loup. Comment il va résister? Il y a une hostilité. Et effectivement, elle est là. Et cette hostilité ne touche pas simplement ceux qui refusent Dieu. Il y a un autre esprit qui travaille derrière pour qu'on soit retenu, pour qu'on soit empêché d'accomplir notre mission. Donc l'image de l'agneau montre la fragilité des disciples face au monde, les dangers, aussi que représentent les loups. Cette image de loup montre l'hostilité que les disciples auront de la part du monde. Mais en même temps, le loup ne peut pas empêcher l'agneau d'accomplir sa mission. Pour nous, pourtant, en voyant les difficultés pour annoncer l'évangile, en voyant la résistance des gens face par rapport à la foi chrétienne, en voyant même le rejet du christianisme, on est peut-être même plus tolérant vers d'autres religions qu'envers le christianisme maintenant, en voyant l'intérêt pour les spiritualités non chrétiennes, ou même le christianisme devient has-been, ou bien, voilà, ces religions du passé, il faut passer à autre chose maintenant, on est en évolution. Et on peut se dire, mais, oui, mais ça vaut plus la peine d'annoncer l'évangile. On peut se dire, mais, oui, mais on peut être découragé. Il y a de l'hostilité. Mais l'hostilité n'est pas un obstacle dans l'annonce de l'évangile. Mais c'est un contexte dans lequel chaque disciple est appelé pour vivre dans cette dépendance à Dieu, dépendance à Jésus-Christ, dans sa manière d'accomplir sa mission. Parce que si l'agneau est appelé à accomplir sa mission au milieu des loups, Dieu s'occupe de la protection de l'agneau. Il y a une confiance à faire. Ne pas être retenu par la persécution, la non-persécution, mais avancer dans cette confiance à Dieu qui nous conduit, qui nous protège, qui prend soin de nous. Comme un agneau qui prend... Comment il va résister face au loup? Il ne peut pas faire grand-chose. Mais il y a un cheminement à faire avec Dieu. Jésus lui-même a dit, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. » À chaque fois qu'on arrive à dépasser l'hostilité, à chaque fois, quelque part, je ne parle pas d'être masochiste, mais de ne pas être retenu par l'hostilité, par la peur d'être persécuté, à chaque fois qu'on franchit cette barrière, on peut, dans l'annonce de l'évangile, expérimenter cette victoire de Jésus-Christ, voir et goûter et réaliser que Jésus a vaincu le monde. C'est quelque chose qui a été souligné fortement par le Seigneur, en tout cas lors de mon séjour au Tchad. En accompagnant ces différentes églises, de 8 dénominations en particulier, pour que ces églises se lèvent pour la mission. Dans une mission, il y a un combat, parce que l'ennemi ne veut pas que les églises se lèvent pour la mission. Mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, donc si les églises se lèvent pour la mission, il y a aussi une action de destruction contre les œuvres du diable. Il y a aussi des attaques par rapport à ça. Parce que l'ennemi ne se laisse pas faire non plus. Mais nous avons la victoire. Donc l'hostilité ne nous empêche pas d'annoncer l'évangile. Que malgré l'hostilité, il y a l'urgence de la mission. Il y a un autre point que j'aimerais aussi relever avec le verset 3 encore, le verset 4 plutôt. « N'emportez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales, et ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. » Il y a là une urgence encore qui est soulignée par Jésus. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, on peut dire ni argent, ni sac, ni chaussures. Cela veut dire il faut enlever tout ce qui peut vous empêcher d'aller rapidement vers les gens pour leur annoncer l'évangile. Mais souvent, on est retenu dans l'annonce de l'évangile parce qu'on est chargé par beaucoup de choses. Et on perd de vue la mission que Dieu confie aux chrétiens, la mission que Dieu confie même à l'Église. Jésus dit aussi, ne saluez personne en chemin. Donc cela renforce encore l'idée de l'urgence. Parce que dans les salutations orientales de l'époque, et même je rencontre aussi ça dans les différents pays que j'ai visités en Afrique francophone, ça prend du temps. Surtout si on ne s'est pas vu depuis longtemps, donc on, voilà comment ça va. Il y a un quart d'heure en tout cas, il faut poser des questions par rapport à la famille, ainsi de suite. Mais Jésus dit, mais ne vous attardez pas. Donc allez-y droit au but, allez-y vers l'annonce de l'Évangile. Mais pourtant, nous sommes souvent si encombrés. Encombrés parce que il y a même des charges qui n'étaient pas des charges au départ, qui deviennent des charges pour nous. Je pense aux biens matériels. On est poussé à acheter constamment, à avoir plus de choses, parce que quelque part, on nous dit, si on n'a pas le dernier modèle, ben on va pas vivre mieux dans ce monde. C'est comme si que le bonheur dépend de ce que nous avons. Et des biens qui n'étaient pas au départ utiles pour nous deviennent utiles et même pire, on devient dépendant de ces matériaux, dépendant de l'ordinateur, dépendant des téléphones, dépendant des écrans, dépendant de suite alors qu'on pouvait vivre sans. Et quelque part, on est encombré par toutes ces choses qui sont autour de nous. Peut-être même parfois par rapport à toutes sortes d'informations que nous recevons tellement que nous ne savons plus comment réagir, comment gérer toutes ces informations. Et ça peut nous encombrer nos idées, nos pensées. Ça peut nous empêcher même de voir ce que Dieu fait dans notre vie et de ce que Dieu fait dans la vie des autres. Il peut y avoir plusieurs biens qui deviennent finalement encombrants pour nous. Pareil dans l'Église, encombrant pour l'Église et qui empêche l'Église de faire la mission que Dieu lui confie. Quelque part, il y a cette priorité que Jésus souligne. Donnez d'abord la priorité au royaume de Dieu. Faites du royaume de Dieu et de sa justice une préoccupation première et toutes choses vous seront données en plus. Mais souvent, nous inversons les choses. Il faut d'abord avoir tel bien avant d'annoncer. Et ça, c'est un défi, en tout cas, que j'ai rencontré à Madagascar. Les églises avancent, mais on se dit, mais donnez-nous tel matériel pour que nous puissions. Alors que Dieu demande d'abord une consécration. Et nous, ici aussi en Europe, on est tellement pris par le matérialisme qu'on se dit, mais si on n'a pas ça, et peut-être même une stratégie, même si la stratégie est biblique, on est appelé à être dépendant de Dieu et non pas d'une stratégie. Faire route avec Dieu, marcher avec Dieu, en étant sensible à ce que Dieu veut faire au travers de notre Église, pour que cette Église discerne ce que Dieu veut qu'elle fasse dans cette région, pour le bien de cette région. Nous sommes appelés à donner une priorité, justement, à mettre l'accent sur la mission, malgré l'hostilité que nous pourrions connaître, malgré aussi tous ces éléments qui peuvent nous encombrer. Mais il y a un dernier point que j'aimerais relever, c'est l'importance de la compassion. Jésus a envoyé ses disciples aller dans les maisons, aller dans les villes, dans les localités, pour parler de la paix de Dieu, pour parler du royaume de Dieu qui est proche, pour parler de la guérison. Tout cela démontre la compassion que Dieu a pour tous ceux qui sont autour de nous. Et c'est cette compassion aussi est une des motivations pour la mission. Quand nous voyons le monde qui est autour de nous, quel est le sentiment qui domine? Quand nous voyons les brebis sans berger, à la merci du loup. Quand nous voyons le voleur qui veut voler des âmes. Quand on voit des gens qui sont sans espérance, sans direction. Des gens qui sont sans protection. Quel sentiment peut avoir? Est-ce une déception? Ou un repli? Ou une compassion? Au travers de cet exemple que Jésus montre ici, cet envoi que Jésus montre ici, je veux bien comprendre qu'il y a une certaine réticence par rapport à l'application de ça, parce qu'on a souvent le modèle de deux par deux. on voyait deux personnes par deux. C'est le modèle de Jésus-Christ, copié par certains, et qui peuvent parfois nous éloigner de l'importance de ce passage. On peut peut-être même dire, mais oui, mais porte à porte, ce n'est plus à la mode maintenant, ce n'est plus efficace. Peut-être. Dieu est souverain. Il y a aussi des nouvelles méthodes, effectivement. Il faut les discerner. Mais j'aimerais relever ici aussi le fait que les maisons ou les localités soulignent aussi la proximité, parce que les disciples sont approchés de ces personnes. Ils sont rentrés dans leur maison, c'est rentrer aussi dans la société, rentrer dans une certaine intimité. Donc, cela concerne aussi tous nos réseaux personnels. Tous nos réseaux personnels. Des personnes avec qui nous avons une certaine proximité, des réseaux familiaux, des réseaux amicaux, des voisins, les gens dans les clubs même que nous rencontrons, et aussi à les villes, les localités, dont celle de Cossonay et environ. Est-ce que nous avons vraiment ce souci? Est-ce que l'Église veut manifester cette compassion envers tous ceux qui sont perdus dans cette région? Est-ce que nous prions réellement pour ces gens ici dans ces environs, pour que ces gens soient en contact avec Dieu et connaissent le projet de Dieu pour leur vie? Et dans ce sens, notre Église a une responsabilité. Nous avons des activités dans l'Église. J'aimerais relever la Alpha Live. C'est une des activités qui permet à l'Église, en fait, qui permettent à l'Église d'être en contact avec les gens à l'extérieur. Mais j'aimerais aussi relever le quartier libre. Mais pas seulement. Toutes les activités de l'Église pourraient être tournées vers l'extérieur. Parce que si nous sommes là, nous ne sommes pas là seulement pour nous. Bien sûr, pour que les aspirations, pour qu'on soit édifié, pour qu'on soit accompagné, pour qu'on soit affermi, bien sûr. Mais c'est aussi pour que l'Église soit en dehors. Et que notre local ne soit pas un bocal qui nous empêche de voir les gens qui sont à l'extérieur. Parce que Dieu a un projet pour eux. Et que notre Église soit tournée vers l'extérieur. Et j'aimerais, pour terminer, partager cette vision que j'ai développée dans l'ouvrage que j'ai écrit. Si chaque disciple en Suisse romande fait un disciple tous les cinq ans, c'est quand même pas mal, tous les cinq ans, d'ici quelques années, vraiment toute la Suisse romande peut être connectée, contactée, toute la Suisse romande peut être en contact de manière régulière avec l'Évangile. Et c'est ce que nous voulons. Nous souhaitons que l'Évangile transforme ce pays, comme il a transformé ce pays tout au long de ces siècles. L'Évangile transforme la société, parce que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, et que nous puissions nous lever. Tout comme Jésus a envoyé ses disciples en mission, que l'Église elle-même soit envoyée en mission pour la gloire de Dieu. Amen.